Radio Spirale. Aujourd'hui, une table ronde autour de la création de la première chaire canadienne en histoire de l'art, occupée par Jean-Baptiste Lagacé de 1904 à 1944. La discussion avait lieu à l'automne 2010, à l'occasion du lancement du livre de Olga Hazan, « La culture artistique au Québec, au seuil de la modernité ».
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Guillaume Sirois, c'est moi qui ai la charge d'animer la soirée. J'ai cet honneur, je pense, parce que j'ai été un assistant de recherche convenable pendant quelques années pour Olga Hazan. Donc elle m'a demandé ce soir d'animer la soirée et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que c'est l'aboutissement d'une longue aventure que j'ai partagée avec Olga pendant plusieurs années. Et ça a été une vraie aventure, je peux vous le dire. Je suis pas le seul à avoir participé. Il y a d'autres personnes dans la salle qui ont participé. Et je peux vous dire que l'aventure était devenue comme un leitmotiv dans ce projet. Chaque fois qu'on montait en voiture, Olga et moi, elle avait pris l'habitude, et c'est moi qui a continué l'habitude, de dire « en route pour de nouvelles aventures ». Et on prenait la route pour aller à contre-cœur, voir les images, voir les carnets de Lagacé. Et donc, il y a eu beaucoup d'aventures. En voiture, à la maison des Lagacé, chez Olga, évidemment, de longs après-midi, vous pouvez vous imaginer, à discuter, à regarder des images, à les photographier, etc. Et donc, je garde un très, très bon souvenir de toutes ces aventures. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'anime la soirée de ce soir. Nous allons tous parler dans un micro, et pour ceux qui voudront poser des questions à la fin, je vous inviterai aussi à parler dans le micro, non pas parce que ce n'est pas un cadre intimiste, mais plutôt parce que la soirée est enregistrée, et donc si on veut avoir capté tout le monde, il faut parler dans le micro. Donc, on aura deux intervenants. D'abord, je vais passer la parole à Olga Hazan, et ensuite, je vous présenterai et je passerai la parole à François-Marc Gagnon. Donc, pour chacun des deux intervenants, j'ai un petit texte qui m'a été fourni, qui vous donne des indications sur chacun d'eux, même si je pense ni l'un ni l'autre ont vraiment besoin de présentation ce soir, mais quand même. Et aussi, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va pour chacun d'eux vous donner un lien. Quel est leur lien avec Jean-Baptiste Lagacé? Alors, je vous lis le texte de présentation d'Olga Hazan. Olga Hazan est professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, où elle enseigne depuis 1989 au département d'histoire de l'art et depuis 2008 au département des sciences des religions. Elle a également enseigné à l'Université Concordia de 1988 à 2003. Dans ses recherches, Olga Hazan favorise une approche qui consiste à observer à la fois la rhétorique de l'image et celle du discours qui l'accompagne. Dans cette perspective, elle étudie actuellement, avec une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la question de la figuration entre judaïsme, christianisme et islam, avec pour corpus de travail des fresques et des manuscrits de l'Antiquité tardive et de la Renaissance. Sur ce sujet, elle a également organisé en 2007-2008 une série de conférences sur le prophète Muhammad entre le mot et l'image, dont elle va publier bientôt les actes en collaboration avec Jean-Jacques Lavoie. Sur le discours de l'histoire de l'art, Olga Hazan a publié aux presses de l'Université de Montréal en 1999 une étude sur le mythe du progrès artistique, qui était finaliste au prix du gouverneur général du Canada et dont une version vient de paraître en espagnol aux éditions ACAL. D'ailleurs, j'ai aperçu quelques copies derrière pour ceux qui sont intéressés.
C'est vrai?
Oui.
Ah bon?
Donc, « La culture artistique au Québec au seuil de la modernité », le livre qu'on lance aujourd'hui, s'inscrit dans la continuité de cette recherche puisqu'il vise à reconstituer l'histoire de l'histoire de l'art, non plus du point de vue uniquement du discours que génère ce champ de savoir, mais des conjectures dans lesquelles il s'inscrit dans un cadre institutionnel et éducatif. Donc, je laisse la parole à Olga Hazan.
Merci Guillaume. Et merci à vous d'être là. J'espère que vous ne serez pas déçus après des années d'attente. La culture artistique au Québec au seuil de la modernité, qui fait suite à une exposition que j'avais présentée en 2004 au Centre d'exposition de l'Université de Montréal, à l'occasion du centenaire de l'histoire de l'art au Canada, expose le contexte dans lequel a été créée la première chaire canadienne d'histoire de l'art, occupée par Jean-Baptiste Lagacé de 1904 et de 1904 à 1944. Ce faisant, ce livre vise à faire connaître les conditions dans lesquelles une culture artistique, c'est-à-dire un champ de savoir axé sur l'art et son histoire, s'est forgée une place à Montréal dès la deuxième moitié du 19e siècle et pour la première fois au Canada, affectant autant les milieux universitaires et scolaires que le monde ouvrier. Tout en abordant des questions liées à l'art, à l'histoire de l'art, à l'éducation, à l'histoire des disciplines, à l'histoire du Québec et à l'histoire culturelle, le livre vise à éclairer le rôle exceptionnel qu'un humaniste montréalais, superbement prolifique et polyvalent, a joué dans ce processus d'institutionnalisation de l'histoire de l'art. Ce faisant, il permet d'observer la manière dont se mettait en place une nouvelle discipline humaniste et les divers types de discours qui la soutenaient. Dans un premier temps, compte tenu du fait que les multiples apports de mon protagoniste Jean-Baptiste Lagacé ont rapidement été occultés peu de temps après son décès en 1946, je poserai une première question, à savoir, que reste-t-il de notre pionnier ? Jean-Baptiste Lagacé, ce nom me dit quelque chose. Peut-être Montréal en a-t-elle retenu l'écho en quelques coins de la ville, à l'angle de la rue Saint-Hubert et du boulevard de Maisonneuve, rue de Montigny à l'époque. Peut-être notre ville en a-t-elle retenu l'écho quelques pas plus loin, rue Saint-Denis, où le professeur d'histoire de l'art, trentenaire tardif en ses premières années du XXe siècle, édifiait avec fougue et passion ses étudiants de l'Université Laval à Montréal, à l'endroit même où siège aujourd'hui l'UQAM. Peut-être Montréal en a-t-elle retenu l'écho au pied de la montagne, où il avait élu domicile après que l'Université Laval à Montréal eut acquis ses titres de noblesse pour devenir l'Université de Montréal en 1920. Est-ce le vent qui ramène le son des voix qui se sont tues, réminiscence lointaine du temps où Lagacé, avec son ami Édouard Zoutique-Massicotte, faisait défiler chaque année pendant 20 ans, de 1924 à 44, des chars historiques et allégoriques en hommage à Saint-Jean-Baptiste, le patron de sa ville et son homonyme. Réminiscence du temps où les ouvriers se pressaient nombreux à son cours du dimanche au Monument National, rue Saint-Laurent, entre 1912 et 44. Ou bien du temps où il professait pour les artistes à l'École des Beaux-Arts de Montréal entre 1924 et 1936. Réminiscence de l'époque où ses aquarelles de l'histoire du Canada ornaient les murs des salles de classe de la Commission des écoles catholiques de Montréal depuis au moins le début des années 20. Peut-être vous souvenez-vous du martyr des Peurs Brébeuf et l'Allemand, attaché à leur bûcher et qui ornait les murs de votre salle de classe. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ouais. Exact, ça c'était Jean-Baptiste Lagacé. Entendez-vous encore l'écho de sa voix ou celle des siens? Parents, amis ou élèves, rue Notre-Dame où il est né et où la basilique arbore ses 11 vitraux évoquant les étapes de fondation de sa ville. Car ce nom, Jean-Baptiste Lagacé, que plusieurs journaux louangeaient chaque semaine pendant de longues années, dès 1897, pour annoncer et recenser ses cours donnés aux quatre coins de la ville, ce nom résonnait souvent ici ou là. Mais aujourd'hui, il semble à peu près oublié, même de ses successeurs à l'Université de Montréal, mais pas tous. Son apport ayant été considéré comme dépassé au moment où, venu d'Europe à cet effet, Ludovic Randall, puis Philippe Verdier avaient jeté les bases du premier département d'histoire de l'art à Montréal, le premier venu en 1948, 2 ans après le décès de Lagacé et à peine 4 ans après qu'il eut pris sa retraite, et le second en 1966. Si l'on ne sait plus aujourd'hui qui il était, est-ce parce qu'il ne reste rien de notre pionnier, qui avait cumulé pourtant un nombre impressionnant d'activités professionnelles, ayant été tout à la fois animateur de cercles littéraires, conférencier, professeur d'histoire de l'art, professeur de dessin, illustrateur, aquarelliste, inspecteur du dessin dans les écoles et guide touristique. De Jean-Baptiste Lagacé, en fait, il en reste tant qu'il est impossible d'en faire le tour en moins de 20 ans, sinon 30, les œuvres et les documents d'archives qui le concernent étant si nombreux, si complets, et lui-même ayant conjugué tant de talents, accompli tant de tâches immenses, qu'il ne me restait pour seule option dans le cadre de cette étude que celle de le faire découvrir par petites parts, au fil du temps, en des promenades, dans sa vie et dans sa ville, à travers différentes sources et par divers moyens, pour une esquisse du temps passé, toujours incomplète, mais avec le souci que cet hommage à son passé comme à celui de sa ville soit édifié à son image, c'est-à-dire en alliant, comme lui, rigueur et fantaisie. Petit moment de suspense. Remontons à présent le temps de quelques crans afin de questionner les conditions de l'émergence d'une discipline universitaire. En 1904, date à partir de laquelle se construit mon histoire, Jean-Baptiste Lagacé, à la suite de quelques sollicitations publiques plus ou moins voilées, est engagé à l'essai à l'Université Laval à Montréal, sans doute par l'abbé Gustave Bourassa, le fils de Napoléon et le frère cadet d'Henri Bourassa que vous connaissez, pour donner un cours d'esthétique et histoire de l'art. Cet essai ayant été jugé concluant par ses employeurs, quoique notre pionnier dit avoir versé une bonne part de son salaire au médecin et à l'apothicaire pour le remettre d'aplomb au terme de cet exploit, Lagacé devient le premier professeur d'histoire de l'art au Canada, poste qu'il occupera pendant 4 décennies, soit jusqu'en 1944. Lorsque Lagacé, à 76 ans, prend sa retraite de l'Université de Montréal, il a formé de nombreux adeptes, dont pas moins de 7, Jules Bazin, Jean-Marie Gauvreau, Maurice Gagnon, le papa de François-Marc Gagnon ici présent, Marcel Parizeau, Émile Venn, Marius Barbeau et Pierre Normandeau sont en mesure de prendre sa relève entre 1944 et 1946 seulement. Olivier Moreau, recteur de l'Université de Montréal de 1934 à 1955 et ami de Lagacé, selon lui, Lagacé aurait lui-même tenu à ce que sa succession fût assurée par plusieurs professeurs, quitte à y laisser ses émoluments. Au Canada, plus particulièrement à Montréal, c'est dans une conjoncture bien particulière que la discipline de l'histoire de l'art s'est développée par la suite, la cohabitation des deux cultures francophones et anglo-saxonnes ayant favorisé, au cours des années, le maintien d'une diversité des corpus, des approches et des modèles offerts aux étudiants, cette richesse et cette ouverture constituant un incitatif de plus, s'il en était besoin, pour tenter de tirer de l'oubli l'entreprise titanesque de Lagacé. Lorsque j'ai entamé cette recherche en 1995, avec pour objectif, après en avoir étudié le discours, d'observer le développement de cette discipline dans ses structures institutionnelles et académiques, c'était avec la conviction que le premier jalon de mon histoire se situait quelque part au début des années 60, au moment où le département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal avait été créé. Jean-Baptiste Lagacé, dont plusieurs avaient vu passer le nom, mais dont peu savaient qu'il avait été le premier professeur d'histoire de l'art au Canada, qu'il y avait fondé cette discipline et l'avait enseignée pendant 40 ans, m'obligeait à tenter de répondre à 2 questions qui ont fini par constituer le fondement de ma réflexion sur l'émergence de la discipline de l'histoire à Montréal, ces 2 questions étant les suivantes. Premièrement, pourquoi l'Université Laval à Montréal décide-t-elle en 1904 de fonder une chaire d'esthétique et histoire de l'art dans une faculté des arts qui n'offre alors que 2 cours publics, en littérature et en droit de l'Église, et où la première chaire en histoire ne sera fondée que 11 ans plus tard, en 1915, pour Lionel Gros? Deuxièmement, qu'est-ce qui a amené à la fondation de cette chaire? Pourquoi voit-on alors se constituer un discours sur l'art? De quoi se constitue ce discours? À quoi sert-il et qui sert-il? C'est donc à ces 2 questions que répond mon ouvrage dans son ensemble, avec pour prémisse l'idée que Lagacé a dû paraître à ses employeurs comme apte à combler des besoins que l'image pouvait assumer mieux que le texte seul, puisque la chaire en esthétique et histoire de l'art à l'Université Laval à Montréal fut fondée bien plus tôt que celle en histoire. Quels étaient donc ces besoins et en quoi le maniement de l'image par Lagacé était-il propice à leur accomplissement ? Ne pouvant vous résumer en quelques minutes les nombreux secrets que recèle cet ouvrage, j'évoquerai, en guise de réponse à ces deux questions, quelques éléments du contexte dans lequel émerge le discours sur l'art juste avant l'arrivée de l'agacé dans le décor. Contexte qui lui aura donc permis de mettre en place la formidable entreprise que nous lui devons aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, on voit poindre à Montréal une culture artistique qui prend deux formes, l'une visuelle et l'autre oratoire, cette double rhétorique s'avérant efficacement propice à la consolidation de pouvoirs hégémoniques, à la fois politiques et religieux, alors qu'elle fait la promotion, preuve visible à l'appui, tantôt de la patrie et tantôt de la foi. Le terreau, cependant, ne livre en rien sans le dévouement de quelques nobles héros, il aura fallu l'intervention de plusieurs individus, incroyablement inventifs, courageux ou acharnés, pour mettre en place une infrastructure éducative dont la rhétorique était adressée en définitive, en tout cas à l'époque de l'agacé, autant aux universitaires qu'au grand public, aux ouvriers et aux enfants. Les précurseurs de l'agacé, ceux qui lui ont ouvert la voie, qui sont-ils ? Ce sont l'abbé Hospice Anthelme Véro, premier principal de l'école normale Jacques Cartier, et qui y avait inauguré le premier cours de dessin en 1861, Napoléon Bourassa, que Véro avait engagé pour dispenser ce cours, qui sera donné plus tard par l'agacé puis par Paul-Émile Bordua, l'abbé Joseph Chabert, qui aura bravé tous les ennuis possibles pour mettre en place une école d'art, l'abbé Adélard Desrosiers, qui dispensait un cours d'histoire au Monument National et dont l'histoire du Canada sera illustrée dans les salles de classe de la CECM de tableaux historiques peints par l'agacé, et enfin l'abbé Gustave Bourassa, le fils de Napoléon Bourassa, que je soupçonne d'avoir fait engager à l'université, aussi bien l'agacé en 1904 que l'abbé, encore un, Gustave Desmazures, qui avait enseigné l'archéologie à la Faculté des Arts peu de temps après son inauguration en 1887. De manière générale, on peut dire que le discours sur l'art s'est constitué au sein de deux types d'organismes éducatifs, l'un axé sur la pratique, notamment du dessin et de l'architecture, et que fréquentaient les ouvriers, tandis que l'autre divulguait un savoir historique et théorique par le biais de conférences publiques, dont certaines furent parrainées par l'université au moment de sa fondation. Fût-elle oratoire ou visuelle, la rhétorique qui accompagnait l'image s'avérait pareillement investie d'un idéal, l'acquisition d'une pratique ayant été plus souvent associée au progrès de la nation ou de l'humanité, tandis que les études universitaires semblaient s'inscrire davantage dans le prolongement d'un éloge des bienfaits de l'Église catholique. Dans les deux cas, et vous trouverez au premier chapitre un exemple pour chaque cas de figure, le discours, par l'image et sur l'image, se tissait au nom d'une vertu morale qui engageait au discernement du vrai et du bien. Ainsi se tisse l'histoire de par la volonté de quelques hommes, superbement tenaces, emphatiques ou talentueux, et qui, tout en mettant leurs moyens au service de structures hégémoniques, s'évertuaient inlassablement, par leurs gestes et leurs discours, à tenter de combler des besoins émergents. Des hommes, donc, et des conjonctures sont à la base de l'enchaînement de quelques découvertes ou inventions mises au service de l'éducation. Je pense aux projections lumineuses des lanternes magiques qui accompagnaient les conférences sur l'art présentées par l'abbé Gustave Desmazures lors des soirées hivernales entre 1888 et 1890, ainsi qu'aux découvertes archéologiques que ce procédé magique lui permettait de présenter comme une preuve tangible de la véracité biblique et de la supériorité du christianisme sur les autres religions et sur le modernisme. L'émergence de l'histoire de l'art à Montréal devait donc sonner l'an précoce à un objet des plus fascinants et que ses premiers conférenciers manipulaient avec une redoutable efficacité. Cet objet, dont les divers employeurs de l'agacé auront bien compris la force et la richesse, c'est l'image, picturale, photographique ou descriptive, dont l'artiste et l'historien en lui se servaient pour réinventer l'histoire, universelle autant que canadienne, par la parole, la plume ou le pinceau, dans ses cours, dans ses écrits et dans ses tableaux historiques, car l'image a le pouvoir unique de donner forme à des fictions et donc de faire valoir comme authentiques des idéaux imaginaires. Par l'importance qu'il accordait au visible, ce nouveau champ de savoir offrait l'insigne avantage de contribuer à engendrer et à légitimer une visibilité culturelle, politique, sociale ou morale. En regard du contexte qui régit la mise en place à Montréal d'une première université de langue française, l'entreprise de Lagacé, portée initialement par des idéaux jésuites et sulpiciens, se caractérisait par son désir d'inculquer le savoir et le bon goût aux universitaires, aux ouvriers et aux enfants, et cela dans le respect toujours de la foi chrétienne et de la patrie, mais aussi et surtout dans l'amour de l'art et du beau. Outre les deux questions posées tout à l'heure au sujet de l'engagement de Lagacé à l'Université Laval à Montréal, d'autres facteurs ont dicté à la fois le parcours de mes recherches et la structure de ce livre, au questionnement à partir duquel s'édifiait mon argumentation, s'ajoutant deux éléments importants. Premièrement, l'originalité, la richesse et la qualité des entreprises de Lagacé, et deuxièmement, la profusion du corpus à ma disposition. En ce qui concerne le premier élément, il m'apparaît, après l'avoir longuement fréquenté, que c'est au point de jonction de ces multiples talents que réside la particularité de l'apport de Lagacé, alors qu'il agit, respire et réfléchit en artiste, comme en témoignent ses lettres de voyage composées en 1900, ses conférences publiques, ses cours et son livre sur l'initiation à l'histoire de l'art, dont il était prévu qu'elle ferait gémir les presses en 1946. Ces différents écrits, dont les deux principaux font l'objet d'une étude critique dans mon ouvrage, témoignent de l'originalité des procédés à l'œuvre chez Lagacé, tandis qu'il croise et entremêle dans sa prose toute forme d'art, théâtre, peinture ou poésie, et donne en outre à son métier, qu'il est le premier à pratiquer en son pays, une touche très particulière dans la mesure où le champ disciplinaire qu'il édifie puise à la fois dans la philosophie et dans l'histoire, et met à l'œuvre une intelligence riche d'un savoir autant pratique que théorique. Pour ce qui est des documents que j'ai consultés lors de cette recherche, deuxième élément susmentionné, comme ils étaient exceptionnellement touffus, une profusion de sources premières m'ayant permis de reconstituer dans sa facture la plus précise l'étoffe des événements évoqués, le livre restitue des trames narratives que le lecteur pourra suivre comme des promenades, cette conjoncture exceptionnelle permettant au bout du compte de donner à voir l'histoire d'un homme et les conditions dans lesquelles s'édifiaient, dans sa ville, les structures de tout un milieu culturel. Pour rendre hommage à cet humaniste que le destin aura doté de multiples talents et dont les propos éloquents étaient souvent drôles et parfois irritants, il me paraissait essentiel, en vue de respecter, sinon de restituer sa richesse et sa polyvalence, de lui donner la parole en publiant dans la troisième et dernière partie de l'ouvrage les deux textes de Lagacé mentionnés tout à l'heure. Le premier est composé de 8 lettres de voyage rédigées lors d'un pèlerinage effectué en Europe en 1900, voyage auquel notre poète avait longtemps rêvé avant de pouvoir l'accomplir. Alors que ce premier texte permet de voir, au moment où Lagacé n'a pas encore été engagé comme professeur, comment se mettaient en place des éléments de son discours d'artiste et d'historien de l'art, le récit qui suit, achevé peu avant son décès en 1946, donne à voir la parole mûrie de l'historien de l'art ayant pratiqué son métier pendant plus de 4 décennies. Outre cette troisième partie, qui présente donc une étude critique de ces deux textes de Lagacé, étude à laquelle a collaboré Guillaume Sirois, ici présent, la culture artistique au Québec au seuil de la modernité, dans sa première partie, est composée de 3 chapitres qui reconstituent le contexte de l'émergence de la discipline de l'histoire de l'art à Montréal, tandis que la seconde est consacrée, d'une part, à la carrière d'inspecteur de Lagacé, sous la plume de Suzanne Lemrise et Brigitte Nadeau, ici présentes et que vous pourrez bombarder de questions tout à l'heure, et d'autre part, à une visite sur CD-ROM des multiples activités culturelles et artistiques de Lagacé, parcours qui a été reconstitué par François Bastien. Je ne sais pas s'il est là. La section des remerciements de la culture artistique au Québec au seuil de la modernité s'étendant à 4 pages pleines, je ne pourrai pas prendre le temps ici de souligner l'apport des nombreuses personnes qui ont collaboré à ce travail, me contentant pour l'heure de remercier les petits-enfants de Jean-Baptiste Lagacé qui m'ont permis de connaître le grand-père, le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada qui a financé la recherche à la base de cette publication et la publication elle-même par le biais du programme d'aide à l'édition savante géré par la Fédération des sciences humaines du Canada, le programme de perfectionnement de l'UQAM qui m'a également accordé des fonds pour la recherche, Laurier Lacroix qui me publie dans sa collection dans les Cahiers des Amériques et l'équipe des éditions du Septentrion qui a donné sa forme ultime à cette étude, en particulier Sophie Imbault. Et enfin, la librairie Olivieri qui nous accueille ce soir. Merci à Rina Olivieri, à Yvon Lachance et à Isabelle Boulanger. Pour le reste, je vous invite donc à consulter directement l'ouvrage. Et en attendant, je cède la parole à Guillaume Sirois qui va vous présenter François-Marc Gagnon, que je remercie de me faire l'honneur d'accepter mon invitation. François-Marc Gagnon est l'une des premières personnes que j'ai consultées lorsque j'ai commencé mes recherches sur l'émergence de l'histoire de l'art à Montréal. C'était le 21 septembre 1995. Je suis allée le rencontrer à son bureau à l'université il y a 15 ans et 8 jours.
Donc, pardon, à moi de comme je l'ai fait pour Olga Hazan, je vous lis le texte qui vous présente François-Marc Gagnon, même si, comme je l'ai dit en introduction, je pense que vous n'avez pas besoin de présentation. Plusieurs d'entre nous ont lu et apprécié vos textes. Voilà. Donc, professeur émérite de l'Université de Montréal et membre de l'Ordre du Canada, François-Marc Gagnon est titulaire depuis l'an 2000 de la chaire à l'Université Concordia du Gail et Stephen Jaroulinski Institute for Studies in Canadian Art, dont il est aussi le premier directeur. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie critique de Paul-Émile Bordua, pour lequel il a reçu le prix du gouverneur général du Canada en 1979, et une chronique du mouvement automatiste québécois 1941-1954, paru en 1998, pour lequel il a obtenu le prix Raymond Klibanski. Parmi d'autres distinctions, il a reçu le prix André Laurendeau en 2007 pour l'ensemble de son œuvre, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre actuellement trois projets importants dans le cadre de sa chaire à l'Université Concordia, soit, premièrement, l'élaboration d'un catalogue en ligne, des œuvres de Paul-Émile Bordua, deuxièmement, un ouvrage qui réunit les écrits et les images de Louis Nicolas, qui date du début du 18e siècle, et troisièmement, un ouvrage sur Jean Berger, un peintre de la Nouvelle-France. François-Marc Gagnon, qui a enseigné l'histoire de l'art à l'Université de Montréal pendant 35 ans, s'inscrivant ainsi dans les traces de son père, Maurice Gagnon, mentionné par Olga, qui était lui-même l'un des successeurs de l'Agacé. Il va donc nous parler aujourd'hui de l'histoire de l'art à l'université. Notons que François-Marc Gagnon a également suivi les traces de Jean-Baptiste Lagacé en dehors de l'université, puisque, comme lui, il a enseigné l'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Montréal, institution que Lagacé avait contribué à mettre en place durant la deuxième décennie du XXe siècle.
Merci. L'histoire est une discipline envahissante. On peut faire l'histoire de l'histoire. On peut faire la biographie des historiens d'art, comme on a un exemple. Et je me rappelle d'avoir lu dans Heidegger qui parlait de faire de l'histoire des philosophes. Il disait, bon, il est né, il a vécu, il a pensé, il a écrit et il est mort. Ça résume à peu près tout ce qu'on peut dire sur un philosophe et peut-être aussi pour un historien d'art, quand je pense à mes propres histoires. Et ça me fait penser à un étudiant qui m'avait fait un beau texte comme ça, puis vers la fin, il dit, vers la fin de sa vie, il mourut. je pouvais pas y mettre une mauvaise note, hein, c'était formidable. Alors, l'histoire de l'art n'échappe pas à ce processus, en fait, de réflexion sur la discipline. Et en fait, parce que c'est une discipline relativement récente, hein, ça n'a pas toujours existé. Enfin, on dit toujours, ah oui, mais c'est déjà Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, livre 35, fait un peu d'histoire de l'art. Mais si vous lisez ça, D'abord, c'est très ennuyeux. Et ensuite, il est question des pigments, des différentes méthodes et des choses comme ça. Enfin, vraiment pas un discours comme on aurait maintenant. Il faut attendre, en fait, la fin du 18e siècle, début du 19e, des gens comme Winckelmann, Riegel et d'autres, surtout en Allemagne, où on commence à avoir une discipline qui ressemble à la nôtre. Pour ce qui est du Canada, alors là, on est vraiment dans les, avec les pionniers, avec Olga se lançant justement dans cette histoire de l'histoire de l'art. Son livre, à ma connaissance, en tout cas, est le premier qui le fait, là, essayer de voir un peu comment les choses se sont passées. Elle vous a très bien résumé, d'ailleurs. J'étais un peu comme Saint Bonaventure écoutant Saint Thomas d'Aquin. J'avais envie de déchirer mon texte parce qu'elle a déjà dit à peu près tout ce que je voulais dire. Mais, en tout cas, je vais le dire autrement. Et alors, là, ça, c'est certainement une chose intéressante. Moi, ce que j'ai connu des débuts de l'histoire de l'art au Canada, c'est beaucoup plus tardif, hein, de ce qu'on vient de raconter. Je sais que mon père, Maurice Gagnon, que vous avez eu la gentillesse de nommer tous les deux, avait été approché, je pense, à un certain temps, là, probablement ce que vous disiez, là, vers la fin des années 40, et il était question de Gérard Morisset, puis d'autres. Enfin, il y aurait probablement eu assez de professeurs pour faire un petit département, mais ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu de suite, et si bien que ces gens-là sont retrouvés dans différents milieux. Gérard Morisset a abouti au Musée du Québec à l'époque, qui s'appelle, comme vous savez maintenant, le Musée national des beaux-arts du Québec. Et tandis que mon père a fait des cours dans les collèges classiques du temps, là, des choses comme ça. Enfin, donc, l'université était comme fermée. C'est avec les années 60 que là, on reprend l'idée de faire des cours d'histoire de l'art. Et il faut mentionner, je pense, M. Louis Randall, qui était un collectionneur extraordinaire. Enfin, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un vrai dessin de Dürer chez lui. Hein? Il y avait ça dans sa collection. Et Randall avait fait des cours d'histoire de l'art à l'intérieur de la faculté des lettres. C'est-à-dire, donc, il n'y avait pas encore vraiment de département d'histoire de l'art. Pour ça, il faut attendre la venue de M. Philippe Verdier, qui a été mon premier directeur, enfin... C'était un personnage un peu ambigu, je pense. Maintenant, il était probablement purgatoire, j'imagine. Enfin, il n'est certainement pas au ciel. Vous allez voir pourquoi. Il était attaché culturel de la France sous Vichy en Espagne, avec Franco. Hein? Ça, c'est pas très bon comme dans le curriculum vitae. Hein? Et si bien que Verdier avait quitté, enfin, à la fin de la guerre, avait quitté la France et s'était retrouvé aux États-Unis. Il avait marié une Américaine et il avait, je pense, enseigné finalement l'histoire de l'art médiéval à Johns Hopkins, et puis il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Et il était très content peut-être de venir enfin au Canada, où on est toujours un peu naïfs, nous autres, sur les engagements qu'on fait. Mais en fait, alors, on l'a reçu à bras ouverts et il est venu donc fonder le département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal. Alors, au début, il connaissait personne ici, évidemment, et il a contacté, en fait, les premiers professeurs dont je me souviens, qui étaient des gens finalement assez sympathiques. Il y avait Bucci, qui était un Italien, qui nous parlait de Livelli et tout ça. Enfin, son discours était truffé d'italien, c'était merveilleux. Il parlait de la Renaissance italienne, évidemment. Et il y avait M. Garnes, qui était un Autrichien, beaucoup plus strict, etc. M. Philippe, qui venait de Belgique. Alors, lui est un spécialiste des verres ou de la verrerie ou des choses comme ça. Enfin, il y avait tous ces gens-là qu'on avait attirés à l'Université de Montréal grâce aux connexions que Verdier avait, je suppose, en Europe. Et j'ai eu le privilège d'être le premier Canadien qui a été engagé par Verdier. Alors, j'étais préparé en art moderne. Enfin, je pensais que je voulais faire ma thèse sur Jean Dubuffet. Hein? Et j'ai fait finalement. Et alors, je pensais que j'enseignerais ça. J'ai jamais enseigné sur Jean Dubuffet une seule fois. J'ai fait un séminaire sur Dubuffet à Tel Aviv. Alors, donc, ça n'avait pas eu beaucoup de répercussions ici. Et ce que Verdier m'a dit, il dit, vous êtes Canadien, vous ferez l'art canadien. Vous savez, on en fait vite le tour. C'est un peu comme l'art de la Normandie ou quelque chose comme ça. Alors, on en fait vite le tour, j'en fais encore le tour. Comme on vient de mentionner les bouquins que je suis en train de travailler. Et, mais, enfin, et c'est une phrase qui a marqué tout mon destin, finalement. Je n'ai fait que ça toute ma vie, de l'art canadien, depuis ce temps-là, et encore aujourd'hui à Concordia. Hein? Alors là, et là, peu à peu, évidemment, on a eu des collègues canadiens, dont Lisa Marsh qui est ici ce soir, il y a eu Nicole Dubreuil, enfin, on a fini par canadianiser notre petit département, et maintenant, c'est lancé depuis longtemps, etc. À l'UQAM, les choses se sont passées très différemment. Et là aussi, je sais pas pourquoi, j'ai trempé aussi là-dedans, c'est que j'ai été, ma toute première carrière, ça a été d'enseigner la philosophie à l'École des beaux-arts. Alors, pour comprendre ça, évidemment, il faut imaginer le directeur du temps, qui était M. Edmond Labelle, très bon garçon, un peu comme Lagacé, la patrie et la religion, en fait, tout ça était très important. Et il voulait, enfin, disons, illuminer un peu les esprits enténébrés de ses étudiants des beaux-arts, en leur faisant des petits cours de philosophie, enfin, thomiste si possible, enfin, quelque chose qui soit très convenable. Et j'ai été engagé là-dedans. Et je me rappellerai toujours mon premier cours. Il y avait, j'arrive avec mes papiers, je voulais parler d'Aristote. Oh my God, c'était vraiment la dernière chose qu'il fallait faire, mais en tout cas. Alors là, les étudiants étaient devant moi. Alors, les gars avaient tous leurs journaux comme ça, puis ils lisaient le devoir ou la presse, et les filles tricotaient. Et là, je me suis rendu compte que là, il fallait ramer un peu pour essayer de soulever cette pâte. Mais, enfin, j'ai toujours été très reconnaissant à l'École des beaux-arts de m'avoir appris la pédagogie, finalement. Enfin, tu sais, le défi était tel qu'il fallait comment les séduire, comment les rejoindre, etc. Enfin, ça a été l'obsession de ces quatre premières années que j'ai fait à l'École des beaux-arts. Et à l'École des beaux-arts, il y avait donc aussi des cours d'histoire de l'art, un petit peu. Il y avait M. Folcribas, ça fait qu'il est un auteur connu maintenant, qui donnait des cours. Il y avait M. Demeter, que peut-être d'autres ont oublié, qui faisait le dessin géométrique, mais aussi quelques cours d'histoire de l'art. Et tous ces cours-là, comme le mien d'ailleurs, étaient considérés par les étudiants comme des cours théoriques, et donc ennuyeux, et donc inutiles. Hein? On cultivait beaucoup l'ignorance. Enfin, tu sais, je me rappelle d'un cours, je nommerai pas le professeur parce que il y avait des machines qui faisaient un bruit épouvantable. Enfin, ces gens-là apprenaient la sculpture sur pierre. Alors, la sculpture sur pierre, maintenant, ça se fait avec des machines qui font beaucoup de bruit. Alors, de temps en temps, ils prenaient l'espèce d'enclenchement de l'électricité, ils descendaient ça. Puis là, son cours consistait en une phrase, il disait « Écoutez la pierre! » Puis le « Broum! » Après ça, il remettait le truc, là, ça repartait. Alors là, ça, c'était des cours vivants, les étudiants aimaient ça, ils travaillaient pour vrai, alors que nous autres, avec nos histoires, c'était d'un ennui total pour eux. Alors, ça a été très, ce qu'on appelait les cours théoriques. Et là, quand l'UQAM a pris forme, ils ont, au fond, intégré l'École des beaux-arts telle qu'il était, et là, ça devenait un peu naturel qu'on crée aussi un cours d'histoire de l'art à l'UQAM en même temps qu'on faisait un Fine Arts Department, là, comme on aurait à Concordia, et comme on n'a pas maintenant ni à l'Université de Montréal, ni à McGill. Il y avait une conjoncture un peu spéciale. L'art du Québec devenait vraiment très, très populaire, si on veut. Et on a attiré des gens qui s'intéressaient à l'art ancien du Québec. Je me rappelle, on avait même fondé un groupe qui s'appelait Groupe de recherche en art ancien du Québec. Ça se disait GREDAC, c'était pas bien formidable comme acronyme. Mais dans lequel on retrouvait justement ces premiers professeurs de l'UQAM, comme Jean Trudel, comme Pierre Méran, comme Robert de Rome, qui s'intéressaient, un à l'orfèvrerie, l'autre à l'architecture, l'autre à la sculpture. Et on avait comme ça donc un intérêt nouveau pour l'art ancien au Québec, et aussi l'idée de revenir un peu sur les recherches des devanciers, comme Gérard Morissette en particulier, et de revoir, en fait, tous les documents que ces gens-là avaient accumulés, puis les relire autrement. Et en même temps, aussi à l'UQAM, on s'intéressait beaucoup à l'art contemporain. Et on avait des professeurs remarquables comme Fernand Saint-Martin ou Francine Couture, qui est peut-être pas ici ce soir, mais qui me traite toujours mon vieux professeur. Quand elle me voit, elle est toujours mon vieux professeur. Alors là, on a eu comme ça, donc, deux institutions qui ont eu des caractères assez différents, finalement, parce que l'histoire de l'art à l'Université de Montréal a pris plutôt la tangente un peu universelle, de faire un peu toutes les époques, alors que l'art québécois était très identifié avec l'UQAM. Hein. Alors, je termine avec ça, en fait, je fais juste vous donner des souvenirs personnels. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une Olga Razan, hein, pour mettre tout ça beaucoup plus rigoureux que je l'ai fait, et de nous continuer à faire son travail en faisant l'histoire de l'art jusqu'à nos jours. Merci.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Gagnon, de toutes ces histoires que moi-même je ne connaissais pas du tout, évidemment. Donc, vous êtes tous invités. Si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre de nos conférenciers, je vous rappelle donc que c'est enregistré. Si vous voulez le faire, il faut le faire dans le micro, ce qui peut causer certaines inhibitions. J'en conviens. Toujours un petit malaise au moment, en attendant que quelqu'un prenne le plancher. Voilà.
Voilà. Je vais casser la glace, juste pour la casser. C'est un moment de partage. Je vais juste vous dire que je trouvais ça très émouvant. C'est tout. Alors, la glace est cassée.
La glace est cassée, merci. Voilà. Alors, maintenant que la glace est cassée, vous n'avez plus aucune gêne à vous présenter au micro.
Ben moi, j'aurais peut-être une question pour Suzanne Lemrys et Brigitte Nadeau, l'une ou l'autre ou les deux, qui ont signé le... Je regarde quand elle me regarde d'un œil noir. Qui ont signé le chapitre 5 du livre où elle présente les activités de Jean-Baptiste Lagacé en tant qu'inspecteur des cours de dessin dans les écoles de la CECM. Et l'une ou l'autre, je ne sais pas si vous voulez nous dire un mot sur les méthodes que préconisait Lagacé pour l'enseignement du dessin. Est-ce qu'elles sont différentes de celles des prédécesseurs? Et si oui, en quoi? Merci, Suzanne.
D'abord, je vais vous dire que ma connaissance de Lagacé était liée au monde de l'éducation, de l'enseignement des arts dans les écoles catholiques de Montréal, parce que j'ai commencé à enseigner en 1958. Et j'avais entendu parler de Lagacé seulement comme professeur de dessin, jamais comme historien d'art, absolument jamais. J'ai découvert ça beaucoup plus tard, qu'il avait eu un rôle très important en histoire de l'art. Donc, quand tu parlais de qui connaissait Lagacé, on avait des petites parcelles, et comme il a été remplacé par quelqu'un à la Commission scolaire de Montréal, en 1942, il a été remplacé par quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit négatif. Alors, on a complètement parlé plus de celui qui avait créé des problèmes que de l'œuvre de Jean-Baptiste Lagacé de la Commission scolaire de Montréal, qui a été magistrale. Alors, on a perdu sa trace à cause des débats de fond créés autour de l'avènement du modernisme en enseignement des arts. Alors, la seule connaissance que j'avais de Lagacé, moi, c'était qu'il avait écrit un texte dans les années... Bon, moi, je suis pas bonne pour les dates, c'est Brigitte qui est la spécialiste, parce que moi, je me mêle tout. Alors, dans les années 30, il avait écrit un beau texte comme « Les enfants à l'école doivent aimer le dessin parce qu'il faut apporter un peu de soleil dans leur vie. » Et moi, tout avant de me mettre dans sa recherche, je pensais qu'il y avait beaucoup de soleil dans les projets de Jean-Baptiste Lagacé. Mais je les ai vraiment pas trouvés, parce que c'est un homme qui est obligé de faire des compromis avec le système officiel. Et le système officiel ne permettait pas de beauté et de soleil dans l'école publique. Alors, il a été obligé toujours de vouloir faire quelque chose, mais de réprimer ses désirs profonds du goût de la culture ou du goût de la beauté. Alors, sa stratégie, au début, c'était de valoriser le dessin d'observation au dépens du dessin décoratif et technique. Et il... tranquillement, pas vite, il a essayé d'amener des cours de des connaissances en histoire de l'art, mais c'était pas accepté. Et quand on les a acceptées, les connaissances en histoire de l'art, c'est pas les siennes qu'on a prises, c'est celles de Gérard Morissette qui était sur l'art québécois. Alors, lui, c'était Lagacé, c'était l'histoire de l'art universel, la grande connaissance. Et là, il se trouve confronté à quelqu'un qui dit non, c'est pas ça qui va être au programme scolaire. Ça va être l'artisanat, l'orfèvrerie. Bon, toutes des choses qui sont intéressantes, mais qui n'avaient aucune relation avec les espoirs de Lagacé de donner du goût aux Québécois francophones. Alors, finalement, sa fin de carrière, après avoir travaillé beaucoup, là, si jamais vous lisez le petit paragraphe, le petit chapitre, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est un homme qui avait une responsabilité professionnelle extraordinaire. Et ça, pour moi, j'ai une admiration totale pour ces gens-là, qui sont à la fois artistes, mais qui sont capables de travailler dans une institution et de faire quelque chose. Alors ça, c'était ma découverte de tout son travail absolument extraordinaire, de compromis et d'essayer de faire des choses. Alors, il a toujours été sous deux. Il faisait des choses, mais en même temps, il était obligé de faire des compromis parce que l'institution était très rigide et l'école publique, c'était pas pour le bon goût, c'est clair et net. Et surtout pas, fallait pas que les gens changent de classe sociale. C'était très, très, très clair dans toutes les directives. Les gens de l'école publique, ils doivent rester à leur place et c'est pas la place. C'est le collège classique qui assumait ça. Alors, Lagacé a été obligé de réprimer beaucoup de ses aspirations profondes, mais il a fait un travail magistral. Alors, c'est à peu près ça là, que je couvre dans le petit chapitre. Un peu court, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas une grande travailleuse. Alors, je ne sais pas, là, c'est quoi? Ça va-tu?
Oui, c'est parfait. Mais peut-être pour donner suite à ce que tu viens de dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il a quand même ouvert un cours d'histoire de l'art au Monument National qu'il adressait aux ouvriers. Donc les ouvriers pouvaient prendre gratuitement le dimanche le cours d'histoire de l'art et il avait pas mal de succès. Non, c'était pas ça, mais par rapport à l'accessibilité.
Il a été, vous savez, il a été l'inspecteur de dessin quand Bordua et Irène Sénécal enseignaient. Suzanne vient de parler de les trois types de dessins, là. Tu sais, le dessin géométrique, là, c'est épouvantable, cette affaire-là. Ça, les deux instruments pour faire du dessin géométrique, c'est une règle et une efface, hein? Il effaçait tout le temps, puis c'était toujours des règles, puis ça. Puis ça, les professeurs généraux, là, ceux qui n'étaient pas des artistes, aimaient ça enseigner ça, parce que c'était bien simple. T'sais. Prenez vos règles, vos crayons, faites trois lignes, puis deux pouces entre chaque, des choses comme ça. L'autre, le dessin d'observation que défendait Lagacé, ça, c'est plus intéressant déjà, en fait, c'est de faire quelque chose à partir de la nature et des choses comme ça. Et là, ce que voulaient faire encore Irène Sénécal et Bordua, éventuellement, c'était d'aller encore plus loin, de faire du dessin d'imagination, ce que tu appelles le soleil. Alors là, on voit que Lagacé, dans ce sens-là, serait comme entre les deux, il ne voudrait pas aller jusque-là, et aussi essayer de donner une place à ce genre-là. En tout cas, c'est... Oui, peut-être un peu nuancé.
C'est important parce que par rapport à... Il a été appuyé par Sénécal, mais Sénécal, moi, elle n'en a jamais parlé. Elle parlait toujours de Maurice Lebel qu'elle détestait. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas jamais commenté l'héritage de Lagacé, mais ce qui a été important chez Lagacé, c'est qu'il y avait un respect incroyable pour les professeurs spéciaux, surtout les femmes, parce qu'elles étaient beaucoup plus cultivées et elles faisaient du dessin décoratif, mais du dessin décoratif de haute qualité. Et il disait toujours, heureusement que j'ai mes professeurs féminins pour être capable d'apporter un peu plus de qualité. Parce que les garçons, c'est toujours le dessin géométrique et le dessin appliqué immédiatement. Alors, il a compté beaucoup sur le rôle des femmes professeurs spéciaux pour avoir une espèce d'ouverture au bon goût. Et les communautés religieuses qui faisaient des manuels scolaires de grande qualité, les communautés religieuses féminines. J'ai fait une petite recherche là-dessus, moi, j'en revenais pas. De haute qualité, pas nécessairement sur le bon goût de l'art universel, mais sur le bon goût de l'art décoratif, sur le bon goût du dessin d'observation. Alors, ça, c'est intéressant, son rapport avec le monde féminin de l'enseignement des arts. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il trouvait un écho à ses aspirations. Tu connais?
Oui.
Très bien. Alors, est-ce que d'autres personnes aimeraient faire un commentaire, poser une question?
Faut acheter le livre, hein?
Voilà, voilà. Brigitte, et après, vous faites tous les commentaires.
Brigitte, tu veux pas nous dire deux mots sur la figure de l'habitant chez l'agacé? Non.
En fait, je réserve pour ton colloque la figure de l'habitant chez l'agacé. Mais en gros, il se sert de la figure de l'habitant. Il fait de la propagande historique. C'est l'habitant historique que l'agacé dessine. Mais en tout cas, je reviendrai là-dessus. Là, c'est loin dans les affaires de ma thèse, fait que je ne peux pas vraiment travailler là-dessus maintenant. Mais j'avais une question, par exemple, pour toi. J'ai été un peu étonnée tantôt quand tu as dit qu'il y avait un lien entre Marius Barbeau et l'agacé. Tu as dit qu'il y avait des adeptes, puis parmi ces adeptes, tu as nommé Marius Barbeau. Quel était le lien?
J'ai simplement nommé les gens qui l'ont remplacé quand il a pris sa retraite à l'université. Donc, il y avait les noms qui étaient dans l'annuaire de l'université pour 1944-46, les gens qui ont donné le cours qu'il avait donné.
Donc, il n'y avait pas nécessairement de lien entre les deux?
Non, non, c'était juste les gens qui avaient donné son cours. Et puis, j'avais vu qu'Olivier Moreau avait dit que l'agacé était prêt à ne pas être payé pour donner son cours, pourvu qu'il puisse être remplacé, quoi.
Ça serait peut-être intéressant de faire une recherche aussi sur le mécénat des historiens, là. Parce que tu dis, bon, ils ne voulaient pas être payés. Et moi, je me souviens des histoires de Élevé Randall, qui n'était pas payé par l'Université de Montréal. Et il était payé par personne. Il donnait des cours gratuitement. Et il faisait venir les professeurs, quand il voulait engager quelqu'un, il faisait venir, mettons, Georges Gams d'Autriche. On le fait venir, il logeait chez lui, et puis après ça, une semaine après, il donnait un cours ou deux, et il retournait en Autriche, et si ça marchait, l'année suivante, il faisait revenir. Et ce qu'il fallait faire, le test ultime chez Élevé Randall, c'était de savoir tourner les pages, quand lui, il jouait, je sais pas quoi, je me souviens plus, du piano, je pense, je sais pas quoi. Alors, il fallait que la personne puisse tourner les pages du cahier de musique et puisse identifier le petit maudit Durer. Il y avait une sculpture... Il y avait une sculpture aussi, un hippopotame, je ne sais pas quoi, d'Égypte. Il fallait identifier les œuvres et là, après, et être très poli à table, avoir de très bonnes manières. Et bon, on avait une chance de devenir prof. Mais tout ça, donc, il le faisait non seulement gratuitement, mais Élevé Randall, mais il faisait venir les gens à ses frais. Donc, c'est un peu particulier. Comme, je pense pas qu'il y a beaucoup de départements dans nos universités qui aient commencé comme ça. Bon. L'UQAM, non, ça commence un peu plus syndicaliste que ça. Mais ça fait du bien de parler un petit peu de ces vieux professeurs européens et de voir que... parce que moi, j'ai été la première génération à voir M. Gagnon comme prof. Alors, nous autres, c'était bien excitant, un prof canadien. Ça, c'est vraiment excitant d'avoir ça. Et de ne pas se faire dire, comme on nous l'avait dit en 68, là, il y avait un petit peu de brasse camarade, 68-69, on avait dit on voudrait avoir des cours en art canadien. Et Philippe Verdier, notre ami Philippe Verdier, avait dit ah, ben oui, vous êtes chanceux d'ailleurs, parce qu'au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a une superbe collection d'art site. On n'a jamais très bien compris le rapport avec, mais c'est parce que je pense que c'était des collections au Québec. Alors ça, c'était
de ce fait sa spécialité.
Et c'était sa spécialité.
Ouais, il aimait ça, les barbares. Hein,
ouais. C'est ça. Qui enseignait en prison. Il donnait des cours aux prisonniers, lui, Philippe Verdier. Et il disait, quand je leur parle de l'or et de comment on fait pour savoir si c'est vrai, c'est du toc ou ça, ils sont très, 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 très intéressés.
Je comprends.
Ouais. Les rapports d'histoire de l'art et de l'argent, ce serait...
Merci, Lise. Mais moi, j'aurais une question pour François-Marc. Est-ce que vous pensez que Ludovic Randall et Philippe Verdier, quand ils sont venus, ils avaient connaissance de ce que l'agacé avait fait ou... Pas du tout.
Pas du tout.
Comment
non.
Ça
non,
se
non.
fait?
Non, ils ne connaissaient pas du tout le milieu ici, je pense pas. Randall, tu l'as bien décrit, là, c'est un grand seigneur. Enfin, je sais pas avec quoi il avait fait son argent, mais...
Hein?
Ah oui. Et bien, un collectionneur, très sérieux. Ah oui, oui. Non, non. Et puis Verdier non plus arrivait, tu sais, des États-Unis, et donc il connaissait. Non, moi j'avais été présenté à Verdier par l'intermédiaire d'un Français qui était le père Pruche. Et il y avait eu, c'est le 14 juillet, une petite chose à l'ambassade française. Et Pruche, gentiment, avait dit « Je connais quelqu'un qui pourrait vous faire des cours en histoire de l'art. » Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Verdier. Mais non, je pense qu'il ne connaissait pas. Non. Et... Oh, c'est assez d'auto-encensement, hein? Achetez ça, là. Puis,
ben, peut-être que Yves veut nous dire deux mots.
Oui, bien,
venez-vous.
Présenter...
Yves, oui.
Yves Lagacé.
Jean-Baptiste,
donc.
C'est mon grand-père.
Voilà.
Mais je ne l'ai pas bien connu, mon grand-père. Évidemment, il est décédé en 1946. Je suis né en 1939, alors je ne l'ai pas connu. En fait, j'ai commencé à connaître vraiment mon grand-père quand Alga s'est mis à se promener à contre-cœur, aller venir fouiller dans les documents. Moi, le souvenir que j'ai de cet homme-là, c'est durant l'été, il passait ses étés au lac Saint-François. Il mangeait un bon repas de midi. Il se couchait au soleil, il se réveillait, puis il racontait ses rêves. C'était extraordinaire. Il faisait les plus beaux rêves. Je tiens de lui, je pense, parce que je rêve beaucoup aussi. Mais mes rêves sont pas poétiques comme les siens. Lui, il faisait des beaux rêves. Moi, c'est le souvenir de mon grand-père.
Bon, alors on conclut comme ça sur le témoignage de M. Lagacé. Ben, merci à tous d'être venus. Merci à François-Marc Gagnon et à Olga Hazan pour leur mots à chacun. Et donc, je vous invite à mon tour à vous procurer le livre qui est derrière et à en parler et à faire vivre Lagacé. Voilà. Merci.